Radio Okapi. Les dernières attaques des présumés rebelles ADF dans quelques agglomérations du territoire de Beni sont des actions de groupes essoufflés et accablés par l'intensification des opérations que mènent les FARDC. C'est ce qui ressort de la déclaration du porte-parole de Sukula 1, le capitaine Anthony Mwalushai. Il sera également notre invité dans cette édition du journal. Burek, bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, parti politique cher à Julien Paluku, s'engage à participer à l'éducation civique et responsable de la population congolaise et aux enjeux démocratiques. Un engagement pris en marge de la célébration de sa 10e année d'existence. Enfin, une équipe de médecins sans frontières est arrivée à Loukolo, dans le sud de la province du Maniema, qui jouxte avec la province du Tanganyika. C'est pour évaluer la situation de la rougeole qui sévit dans la région. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Les dernières attaques attribuées aux rebelles ADF dans quelques agglomérations du territoire de Beni se justifient par l'intensification des opérations en cours que mènent les FARDC sur les positions de l'ennemi. C'est le porte-parole des opérations Sukula 1 Grand Nord qui l'a dit ce samedi au cours d'un entretien accordé à Radio Okapi. Néanmoins, il indique que les stratégies sont mises en place pour protéger les civils. Le capitaine Anthony Mwalushai explique au micro d'André Kitenge.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié les opérations aériennes, ont bombardé plusieurs bastions de l'ennemi. L'ennemi a perdu beaucoup d'hommes, l'ennemi a enregistré beaucoup de blessés et ceux qui se sont réchappés ont besoin d'abord de médicaments. Voilà ce qui justifie la dernière attaque du côté de Kamango, l'attaque sur la route Beni-Kassindi, là où l'ennemi voulait kidnapper cette personne, mais avec l'intervention de nos troupes, l'ennemi n'a jugé bon que les tuer et partir. Mais dis-moi, il y a des stratégies. Les stratégies, c'est que nous sommes en contact permanent avec la population. Les commandants qui sont dans des grandes agglomérations opèrent simultanément avec la police congolaise. Et aussi, le chef de village, les chefs de quartier sont déjà instruits, sont déjà informés sur la nouvelle manière de collaborer avec les forces de l'ordre, d'alerter en temps réel. Donc c'est mieux de nous alerter avant et nous allons agir. Et c'est très mauvais de le faire dans les réseaux sociaux.
Le capitaine Anthony Mwalushai sera notre invité peu avant la fin de cette édition. Pendant ces temps en Ituri, 6 personnes ont été tuées et 50 autres portées disparues. C'est le bilan revu à la hausse de l'attaque depuis avant-hier de la milice Codeco dans le village Kepira, dans le groupement Angal, territoire de Mahagi. Des sources sécuritaires dans ces territoires renseignent que ce centre enregistre des pertes énormes, notamment en termes des incendies des maisons, ainsi que des déplacés massifs des populations. Le caucus des députés provinciaux de Mahagi hausse le ton et invite l'armée à renforcer son effectif dans cette zone. Le point de la situation avec Ezekiel Mouzalia.
Selon un acteur de la société civile locale, la résurgence des attaques de cette milice Codeco a commencé depuis le mois dernier lors de l'interpellation d'un de leurs leaders par les services de sécurité dans la zone. Ce qui, estime-t-il, les a poussés à commettre des exactions contre des civils ainsi que quelques positions des militaires dans les entités à la limite avec les territoires voisins des Djougou. À Kepira, ils ont tué 6 personnes et ont blessé 2 autres avant de prendre en otage 50 autres selon un membre de cette structure citoyenne. Patrice Oufoyou.
Ils ont tué plus de 6 personnes tuées. C'est la situation très volatile. Nous demandons que l'autorité de l'État soit rétablie et l'autorité coutumière doit rentrer dans son entité.
Un acte que condamne le caucus des députés provinciaux de Mahagi qui le qualifie d'un pire sabotage aux efforts de restauration de la paix en province. Son président Martin Oloa.
On en a marre tous les jours, tuer les pauvres innocents. Les gens qui n'ont rien, qui sont démunis, nous demandons aux autorités qu'ils puissent s'impliquer pour que la paix revienne.
L'administrateur de ces territoires affirme que le calme est revenu grâce à l'intervention des militaires qui sont venus stopper les exactions de l'ennemi. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et en réaction avec cette recrudescence des tueries des civils dans cette province, la Task Force pour la paix condamne les attaques récurrentes de la milice Codeco cette semaine en plein processus de restauration de la paix en Ituri. le communicateur de cette structure dépêché par le chef de l'État en Ituri pour contraindre les groupes armés à déposer les armes et à rejoindre le processus de PDD-RCS, l'a dit hier au cours d'une exclusivité à Radio Okapi. Pichu Iribi dit être en contact permanent avec certains leaders de ces groupes armés et bien d'autres qui terrorisent la population. Il indique que plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour emmener ses fils égarés à accepter la main tendue du chef de l'État. Pichu Iribi est joint au téléphone par Ezekiel Mouzalia.
Nous avons commencé déjà un début de contact avec ces groupes armés. Avec Odeco, c'était déjà depuis Kinshasa. La stratégie appropriée, nous allons l'adopter à chaque groupe armé. Depuis que nous sommes là, il y a à peine 2 semaines, nous avons commencé par organiser l'équipe écuménique et nous avons lancé le message de paix. Nous avons aussi reçu les communautés et aussi les différentes associations. Nous avons discuté avec elles et voilà, il y a une constance. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué. Tout le monde veut que cette fois-ci, ça soit couronné de succès. Que les gens continuent à mourir, un cas de mort de plus, c'est un mort de trop. Nous les condamnons et nous demandons à la Codeco de cesser de s'appendre à la population et même aux forces de sécurité. Parce que nous sommes là déjà, s'ils ont des revendications, ils les présenteront à la task force.
Le parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'Émergence du Congo au Burek s'engage à participer à l'éducation civique et responsable de la population congolaise et aux enjeux démocratiques. C'est entre autres certaines des résolutions prises par les cadres de ce parti et annoncées hier vendredi aux sympathisants lors de la célébration du 10e anniversaire de ce parti politique. Ils ont aussi annoncé avoir choisi Félix-Antoine Tshisekedi comme leur candidat aux élections de 2023. Un reportage de Fulbert Balolagui.
Ce 10e anniversaire s'est tenu sous le thème « Quel bilan, leçons et perspectives d'avenir pour l'ancrage du parti ?» Le président ad intérim du Burek, Jean-Marie Katokolio, fait savoir que le bilan des 10 premières années est positif et d'annoncer ce qui suit pour l'avenir.
Le Burek va poursuivre son travail. Il consiste à une éducation civique responsable des populations congolaises, à un encadrement, une formation et un renforcement des capacités de ses membres et de ses cadres pour les rendre aptes à assumer différentes responsabilités dans la gouvernance démocratique et transparente du pays.
L'autorité morale du parti, Julien Paloukou, est aussi ministre de l'Industrie, annonce aux sympathisants que
pendant le 2e congrès, vous avez estimé que cette grande icône de la RDC, qui a sa vision autour du peuple d'abord, méritait d'être félicitée par vous comme notre candidat aux élections de 2023. C'est la décision du congrès de pouvoir soutenir la candidature de son excellence Félix Antoine.
Ce 10e anniversaire a connu la participation de quelques membres du gouvernement et des membres des partis politiques du regroupement AABC et d'autres de l'Union sacrée.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer la désaffectation irrégulière et la spoliation des parcelles de l'État à Goma. C'est le cas de la parcelle habitée par l'ancien directeur de province, Athanase Kahania, sur l'avenue La Corniche, aux environs de la résidence du gouverneur, au centre-ville, vente attribuée à des personnes mal intentionnées. Vendredi, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, enveilleuse, a saisi le gouverneur des provinces. Les députés Jean-Paul Lumbulumbu demandent à l'autorité provinciale le retrait pur et simple de la notification de certains arrêtés de désaffectation des parcelles de l'État. Selon lui, des motifs basés sur le contenu de faux rapports des services de l'urbanisme ont été rédigés, désaffectant ainsi la dite parcelle. Les députés Lumbulumbu demandent au gouverneur de province de freiner cette hémorragie visant à désaffecter irrégulièrement les parcelles de l'État à Goma. Il est au micro de Denise Loukesso.
Pour nous, il n'est pas question que l'on puisse accorder le moindre crédit à ces genres d'arrêtés qui sont basés sur des fausses déclarations. Lorsque vous lisez l'arrêté, vous allez constater que sur les 11 maisons qui avaient été identifiées, ce sont des maisons qui concernaient les quartiers Mourara. Mais la maison sur avenue de la Corniche dans laquelle habite le directeur de province, elle avait été glissée frauduleusement sur la liste. Nous avons tout simplement proposé au gouverneur de province, à défaut d'un report de cet arrêté au niveau du gouvernement central, nous invitons la province à s'assumer comment ? C'est en retirant la notification de cet arrêté de désaffectation, en se basant sur le fait que des fausses déclarations avaient été faites pour amener le ministre de tutelle a signé un arrêté de désaffectation. Parce que c'est faux, la maison qui est habitée aujourd'hui par Papa Kanya n'a jamais été calcinée. Qu'on puisse entamer une sorte d'enquête de toutes les maisons de l'État qui avaient été désaffectées irrégulièrement.
Réceptif, le gouverneur a instruit son conseiller juridique d'initier une lettre tendant à obtenir le retrait de la notification de ces arrêtés de désaffectation. Maître Lumbulumbu ajoute qu'environ 93% des parcelles de l'État à Goma sont déjà désaffectées. Concernant en effet cette question des maisons et parcelles de l'État, le conseiller juridique du ministre de l'Urbanisme et Habitat au niveau de Kinshasa a fait savoir que c'est une situation désastreuse non seulement pour le Nord Kivu, mais également pour le Sud Kivu. Et le ministre d'État, Pius Mwabilou, se bat pour conserver tant se faire que peu les patrimoines qui restent encore et cherche à récupérer tous les autres patrimoines de l'État spolié. Direction la frontière des provinces du Maniema et du Tanganyika. Arrivée hier vendredi d'une équipe du MSF pour évaluer la situation de la rougeole dans le secteur de Lukolo. Nous sommes à l'extrême sud-est du territoire des Kabambare dans la province du Maniema. Le Maniema qui partage une frontière commune à la fois avec le Tanganyika et le Sud Kivu. Reportage François-Xavier Mibi.
L'équipe de MSF provient de Kindu, le chef-lieu de la province du Maniema. Le médecin directeur et le superviseur de la zone de santé des Kabambare font partie de la délégation arrivée à Lukolo. Objectif, évaluer la situation de la rougeole signalée dans les secteurs de Lukolo et ses environs. Le président de la société civile locale, Olivier Luamba, parle d'un appui médical attendu depuis dans la zone.
Ils ont confirmé que la rougeole attaque maintenant les enfants, reçus au moins 7 cas de maladie.
C'est dire que ces enfants sont déjà pris en charge par MSF.
Ils ont amené quantité de médicaments dans le secteur de Lukolo. Les MSF, ils ont évalué un village Kalonda Kibuyu, Kako, Rosundanaloma, Kalonda Ben, Mutuka, Mutupeke, village Lukolo, Plistin.
Rappelons qu'il y a une semaine, la maladie a causé la mort de 7 enfants à Toulongue, dans le sud du territoire des Fizi, en province du Sud Kivu, parmi les populations de déplacés provenant de Lukolo. Kalemi, François Djabemibe, Radio Kapi.
Alors, restons du côté de la province du Maniema pour vous parler du début, et depuis jeudi 13 janvier, de l'opération d'administration du vaccin contre la COVID-19. Selon le chef de division de la santé, il est prévu 5 sites de vaccination, dont un seul, celui placé à l'hôpital général de référence de Kindu, est d'abord opérationnel. Docteur Estache Bibala Faraï encourage toute personne dont l'âge varie entre 18 et plus de passer prendre gratuitement sa dose de vaccin. Docteur Estache Bibala Faraï parle au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons débuté la vaccination contre la COVID-19. Il y a un des moyens de prévenir la transmission et de sécuriser la population. Dans la ville de Kindu, nous sommes à plus de 360 cas confirmés déjà. Pour ne citer que ceux-là qui utilisent les avions pour sortir en dehors de la province et les quelques volontaires qui viennent se dépister. Alors si on essayait de procéder par un dépistage de masse, voyez ce que ça va donner. Ça c'est uniquement pour la zone santé de Kindu. Je crois que c'est un indicateur important qui atteste que la province du Maniema est touchée à l'instar de toutes les autres provinces du pays. Le vaccin est là, donc le vaccin que nous sommes en train d'utiliser, c'est un vaccin certifié au niveau central. Nous appelons la population du Maniema à venir se faire vacciner. Nous encourageons tous ceux-là qui hésitent à venir utiliser les sites de vaccination. Nous en avons prévu 5 pour la ville de Kindu. Jusque-là, c'est seulement un site qui est opérationnel. C'est le site qui est positionné à l'hôpital général de Kindu. Et la cible qui est invitée là, c'est toute la population à partir de 18 ans et plus. Vous êtes invité à venir prendre votre dose de vaccin. C'est une vaccination qui est gratuite.
Autre nouvelle, les voyageurs par la voie ferrée peuvent désormais atteindre Lubumbashi et vice-versa dans des conditions confortables à partir de Kananga. La première rotation du train New Express Colombe reliant les deux villes en passant par Moneditu a atteint Kananga vendredi dans la nuit. L'ambiance a été observée dans la matinée à la gare de la SNCC où l'on pouvait apercevoir plusieurs personnes se rendre sur le lieu, voir cette locomotive dotée d'un confort VIP. François Kadima était aussi sur place.
Après avoir lancé New Express Diamant Béton, la Société Nationale de Chemin de Fer, SNCC, est passée au train express rapide surnommé New Express Colombe. Contrairement au premier, celui-ci va relier Lubumbashi, Kananga, Lubumbashi via Mweneditu. Parti de la ville cuprifère le mercredi à midi, New Express Colombe a atteint Kananga vendredi la nuit, soit deux jours après. Georges Moulagi, chef train, revient sur les particularités de cette locomotive réservée aux passagers.
Le confort, la serviabilité, la rapidité, et la ponctualité sur ces trains. Pour les anciens trains, on faisait 4 à 5 jours. Ce train ici est parti avec une rapidité très excellente. Et avant de prendre place à bord de ce train, il faut d'abord se faire enregistrer, passer au test Covid. Les clients peuvent amener son bagage enregistré qui ne peut pas dépasser 30 kilos.
La population trouvée à la gare SNCC salue cette action qui, selon elle, rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions de voyage sur la voie ferrée voulue par le président de la République.
Parce que c'est une nouvelle chose que nous venons de voir. C'était la promesse, mais aujourd'hui, nous voyons que c'est la réalité.
Notons que New Express Colombe a 10 voitures, dont 3 de première classe luxe, 4 de première classe ordinaire. Le restaurant et bar pour les passagers. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne étaient réunis jeudi 13 et vendredi 14 à Brest sur la situation au Mali. Les 27 pays de l'Union européenne partagent le même constat selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. La situation ne va pas dans la bonne direction et la junte ne donne aucun signal positif, au contraire. Et les ministres se sont mis d'accord sur le point suivant. Plein soutien et front uni avec la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont nous saluons une fois de plus le travail. Nous préparons des sanctions contre ceux qui font obstruction à la transition. Nous maintenons nos activités et nos missions de formation et de conseil aux forces armées et aux forces de sécurité intérieure maliennes. Nous maintenons la suspension de l'appui budgétaire.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le porte-parole des opérations Sukula 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushai. Avec lui, nous parlons des dernières attaques des présumés rebelles ADF dans quelques agglomérations du territoire de Beni. Il s'entretient ici avec André Kitenge. Suivez.
Capitaine Anthony Mwalushai, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment expliquez-vous ces dernières attaques des présumés rebelles ADF contre les civils dans plusieurs agglomérations du territoire de Beni?
Oui, c'est simple à comprendre. Ces dernières attaques se justifient sur un point. Le point, c'est que les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié les opérations aériennes, ont bombardé plusieurs bastions de l'ennemi. L'ennemi a perdu beaucoup d'hommes, l'ennemi a enregistré beaucoup de blessés, et ceux qui se sont réchappés ont besoin d'abord de médicaments. Voilà ce qui justifie la dernière attaque du côté de Kamango, là où on a pillé un centre de santé pour récupérer le médicament. Voilà ce qui justifie l'attaque sur la route Beni-Kassindi, là où l'ennemi voulait kidnapper cette personne, mais avec l'intervention de nos troupes, l'ennemi n'a jugé bon que les tuer et partir.
Mais au niveau de l'armée, n'avez-vous pas des stratégies pour protéger les populations civiles pendant que vous êtes en pleine opération?
Il y a des stratégies, bien sûr qu'on ne peut pas dire dans les médias, mais dis-moi, il y a des stratégies. Les stratégies, c'est que nous sommes en contact permanent avec la population. Les commandants qui sont dans des grandes agglomérations opèrent simultanément avec la police congolaise parce que nous sommes obligés d'appuyer notre police dans des agglomérations. Et aussi, le chef de village, les chefs de quartier sont déjà instruits, sont déjà informés sur la nouvelle manière de collaborer avec les forces de l'ordre, d'alerter en temps réel. Nous ne voulons pas que l'ennemi arrive avant nous. Quand il y a suspicion d'une menace, donc c'est mieux de nous alerter avant et nous allons agir. Et c'est très mauvais de le faire dans les réseaux sociaux parce que l'ennemi a ses collaborateurs qui sont partout. On ne se connaît pas, alors c'est anormal d'alerter dans les réseaux sociaux parce que les mêmes alertes parviennent à l'ennemi et l'ennemi va se déplacer avant même qu'on arrive.
Alors, la société civile estime que les opérations conjointes jusque-là n'atteignent pas les grandes agglomérations où l'ennemi a tendance à se replier en tuant des civils. Qu'en dites-vous ?
Oui, c'est normal que la société civile raisonne dans ce sens-là. Et nous, en tant que militaires, quand nous avons nos stratégies militaires, nous, en tant que RDC, nous avons une armée, une police qui sont censées protéger la population. Et nous ne sommes pas obligés de donner notre pays aux amis ougandais pour faire notre travail. Donc nous, en tant qu'armée, nous avons notre mission, nous sommes obligés de protéger notre population. Les amis ougandais qui sont chez nous, avec qui nous travaillons très très bien sur le terrain, ont des missions spécifiques où ils travaillent. Alors ça ne dépend pas d'Anthony, ça ne dépend pas du commandant secteur pour dire que non, écoutez, aujourd'hui, allez travailler dans cette zone. Ça relève au niveau stratégique et quand ils verront que c'est mieux ou ce n'est pas mieux de travailler partout, ils nous diront. Alors pour l'instant, nous faisons notre travail et les amis ougandais font les leurs. Donc nous sommes obligés de travailler dans ce sens. Et ce que nous demandons à la société civile, c'est de sensibiliser les Maïmaï qui sont en train de naître du jour au lendemain, dans la chefferie de Bachou, dans le secteur de Rwenzori, du côté d'Yakato, il y a des Maïmaï qui sont en train de prendre les armes pour s'attaquer aux forces de l'ordre. Est-ce que vous vous imaginez que quand on les neutralise, les gens nous condamnent même. Le Maïmaï, les ADEF, tous sont des tueurs et nous les considérons comme des terroristes, comme des ennemis de la paix. Il n'y a pas la distinction.
Comment évoluent les opérations conjointes dans la région de Beni présentement avec l'armée ougandaise?
Ça évolue très bien. Nous avons déjà récupéré les grands bastions Kambiajua 1 et 2. C'était vraiment l'objectif primordial. Nous avons neutralisé l'effectif de l'ennemi. C'est vraiment un succès pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes en train de planifier d'autres opérations. D'ailleurs, les troupes sont en progression vers d'autres bastions ennemis. Voilà, bien que je ne peux pas les dire ici, mais du moins je vous dis que ça évolue bien. Et si aujourd'hui il y a la calmie précaire dans les territoires de Beni dans son ensemble, c'est aussi grâce à ces opérations conjointes. Alors, ce que la population doit comprendre, c'est que tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas des magiciens, nous ne sommes pas des petits dieux. Non, nous sommes des êtres humains, nous planifions, l'ennemi planifie. Mais l'ennemi planifie avec les collaborateurs qui sont dans la société. Donc, quoi de plus normal que de les dénoncer auprès de nos services? Et là, ça va nous permettre à avancer rapidement.
Capitaine Anthony Mualouchai, je vous remercie.
C'est moi qui remercie la Radio Capi.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Dieudonné Nyangassa, coordonnée par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Ben Kabamba. Était à la présentation Jacques-Yves Molima Aouta. Merci de nous avoir suivis.